Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Bleu nuit, good boy, mort et encore, mauvais genre, les inconsolés, not a love song, self and others, tout va bien. Autant de titres de chorégraphie signés par Alain Buffard, qui, avant de devenir chorégraphe, avait été un danseur de la nouvelle danse française, interprète notamment de Brigitte Farge, Régine Chopineau, Daniel Larieux et Philippe Découfflé. Disparu en 2013, dans un en deçà ou un au-delà de la danse, refusant les codes formels convenus, les frontières hermétiques entre les disciplines artistiques, des plus profondes émotions de l'intime aux problématiques les plus politiques, Alain Buffard aurait exploré son art au-delà de ses confins dans des interrogations sur la mort, l'identité et la sexualité. En 2001, il proposait un nouveau spectacle, Dispositif 3-1, avec les danseuses Claudia Triozzi et Anne Laurent. Un spectacle auquel participait également l'historienne de la danse Laurence Loupe, qui était aux côtés d'Alain Buffard pour présenter Dispositif 3-1 au micro de Laurent Goumard et Stéphane Bouquet dans Studio Danse sur France Culture.
Il n'y a pas d'ordre, il y a un hiver, ce n'est pas classé, ce ne vient pas par palier, comme un escalier, comme une progression, ce ne vient pas en ordre. Il y a des pensées, des remontées, des élargissements, des entrées, des entrants, c'est Arcos.
Et c'est Studio Danse, une émission de Laurent Goumard.
Et vous, Stéphane Bouquet ? Aujourd'hui avec nous, le chorégraphe Alain Buffard et la critique performeuse Laurence Loupe pour leur pièce Dispositif 3.1 qu'on avait juste évoqué, Stéphane, lors de la création à Brest.
En effet, ainsi les spectateurs, les auditeurs plutôt, pourront nous suivre à la trace. Alain Buffard, donc, qui fut danseur dans les années 80, a un moment arrêté tout ça pour se promener dans le milieu de l'art contemporain. Dispositif 3.1 qui vient de passer à Beaubourg et qu'on retrouvera bientôt ailleurs, en est la preuve et la trace. Le titre déjà, un brin conceptuel, je pense que tout le monde me l'accordera. Vos programmes, pas un spectacle donc, mais une installation de corps. On note aussi dans Dispositif 3.1 la présence, outre celle de Claudia Triozzi et d'Anne Laurent, la présence donc de Laurence Loupe, historienne de danse et grand connaisseur de l'art contemporain. Elle s'y livre à des acting out réjouissants, vraiment très réjouissants, dont l'un est une conférence improvisée sur l'histoire de quelques grands mouvements de l'art actuel, art conceptuel, arte povera, minimalisme, et ce devant une coiffeuse où elle se maquille à la va comme je te pousse, ou pourquoi pas à la Bacon, ce qui serait une façon, Laurent, de court-circuiter finalement la sortie de la peinture induite par l'art contemporain en réinstallant le tableau au centre des discours.
Alors, ce que vous venez d'énoncer, Stéphane, c'est exactement le type de discours absolument grotesque au vrai sens du terme et au sens noble du terme que tient Laurence Loupe dans sa performance-conférence. Alors, cette conférence a justement posé problème à un certain nombre de spectateurs sans humour qui ont considéré qu'il s'agissait là encore d'un discours réactionnaire contre l'art contemporain, alors qu'il était en fait question d'un discours qui visait la critique formatée et stéréotypée de l'art contemporain.
Le problème, c'est que si cette mésinterprétation fut possible de la part des spectateurs, ce n'est pas forcément que les spectateurs sont tous des idiots, mais c'est peut-être qu'elle est contenue dans le spectacle et qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais Laurence Loupe, je crois, a son idée sur la question.
Je pense que le spectateur n'use pas de la liberté qu'on peut avoir dans un texte de Borges ou dans un texte de Diderot, par exemple, où plusieurs niveaux de lecture peuvent s'entendre. Ça, c'est une première chose qui me semble très très importante. Et deuxièmement, peut-être que au-delà du respect pour l'art contemporain, il y a un respect excessif justement pour le formatage et la définition de l'œuvre qui aujourd'hui prend le pied, comme on le sait, sur la perception de l'œuvre ou de la non-œuvre également.
Est-ce que Alain Buffer, vous aviez voulu, dans cette séquence, jouer sur ce que, par exemple, Roland Barthes appelle la batmologie, c'est-à-dire donc un effet de second degré par rapport à ce qui est dit. Mais pas un second degré au sens comique où on l'entend, mais où la perception ne peut pas prendre au pied de la lettre l'énonciation.
Ce dont il s'agit dans cette séquence-là en particulier, c'est aussi faire hommage à un certain nombre de mouvements et d'artistes hein, qui ont traversé, qui m'ont constitué en tant qu'être sensible et artiste. Hein. Il se trouve que c'est des mouvements repérables par les objets qu'on amène. Et s'il y a critique, c'est effectivement plutôt sur le formatage du discours hein, critique sur l'art contemporain en général. Et c'est ce qui est merveilleux avec Laurence, hein, qui est elle-même. Enfin, on inverse son rôle et sa fonction, à savoir que c'est quand même elle est une référence hein, en matière d'histoire de la danse et de l'histoire de l'art contemporain. Sauf qu'effectivement, c'est outrageant, irrévérencieux, tout en étant très respectueux vis-à-vis des œuvres. Beaucoup moins par rapport à certains critiques qui auraient, selon certains, l'apanage d'une certaine vérité sur l'œuvre. Et les œuvres, elles sont... peut-être que ça dit ça aussi, c'est le pouvoir, que j'espère encore toujours vivant, de la fonction de l'art, à savoir que ça dérange et qu'on est en plein dans ce débat-là. Voilà.
Et là encore, on voit donc plusieurs références, donc références à des différents moments clés de l'histoire de l'art dans la séquence avec Laurence Loupe. Référence encore dans une séquence avec Laurence Loupe et les trois interprètes féminines à un travail de Mike Kelly. Plus tard, à la fin, par exemple, il y a une chanson de Gilda. Comment vous arrivez à faire ? Qu'est-ce qui traverse le spectacle dans toutes ces références ?
Le travail se fait autant dans le studio que dans nos appartements quand on se rend compte dans les sessions de travail où on parle beaucoup. On essaie de partager ces références-là quand elles n'étaient pas connues pour certains d'entre nous. Donc on amasse un corpus qui, moi, m'intéresse où des choses ont été proposées, par exemple Michael et Paul McCarthy avec Heidi, qui me semble être une chose... Enfin, extrêmement fondamentale, qui joue d'une liberté phénoménale dont je suis extrêmement envieux. Le départ du projet, en fait, c'était Laurence et moi, sur l'esthétique camp. Hein, et il y a toujours là, d'une manière fantomatique, des figures tutélaires du camp, à savoir Jack Smith ou d'autres personnes. On peut dire que McKelly aussi... une figure camp d'aujourd'hui et tout ce qu'il arrive à faire passer de liberté de son rapport à la souillure, au scatologique, etc. Je suis très respectueux de ça parce que il opère là une avancée vraiment importante et donc c'est en œuvre dans la séquence. Effectivement, on n'est pas dans le scatologique, mais quand même dans une espèce de matière avec les tomates qui sont broyées, qui giclent, qui renvoient effectivement à de l'organique, à du sexuel, et surtout de l'improductif, parce que c'est donc pour remettre un peu pour les auditeurs la séquence. Laurence a les yeux fermés, derrière elle, Claudia lui fait faire des actes ménagers de la femme ménagère qui est censée produire, nourrir son homme qui lui-même va produire toute la chaîne qu'on connaît capitaliste, hein, sauf que les tomates qui sont censées nourrir toute la petite fourmilière, elles sont balancées par terre et elles nourrissent personne. Et donc finalement, la question elle est aussi de cette improductivité, la question du geste hein, du danseur hein, ou du geste du plasticien pour est-ce qu'on est encore en droit de rajouter quelque chose ou est-ce que le corpus existant est suffisant et est-ce qu'on peut le redéployer, le re-questionner et en fait depuis le début mon travail c'est autour de ça quoi.
Juste une question par rapport, parce que le terme de référence, justement, peut encore induire un nouveau discours qui serait encore de l'ordre du malentendu, c'est-à-dire qu'on pourrait penser, comme il y a un effet citationnel, qu'on serait là dans une dynamique postmoderne. Alors justement, c'est ça. En quoi, Laurence Loupe et Alain Buffer, ce spectacle n'est pas une démonstration d'une dynamique postmoderne ?
Je crois que à un moment donné, quelquefois le soir, je dis que je rappelle que l'attitude postmoderne consiste souvent à la fois à exalter et profaner l'avant-garde historique. Et je pense que nous, enfin, j'allais dire nous au contraire, non, c'est un petit peu ambitieux de le dire. Mais il y a un rappel, comme a dit Alain très justement, de ce qui nous a constitués. Et ne serait-ce que les œuvres elles-mêmes, parce que même si elles font allusion par certaines formes ou par un certain processus citationnel à des mouvements, des courants précis dans l'art du XXe siècle, ce sont d'abord des œuvres de rebut sur le plan matériel, puisqu'à chaque soir, enfin, chaque fois qu'on est quelque part, mes chers camarades, sans me consulter d'ailleurs, vont ramasser partout dans la maison des objets, donc dont la simple accumulation va constituer ce qu'on peut appeler une composition, avec plein de guillemets de chaque côté, plutôt une décomposition. Et donc, déjà au départ, on n'est pas vraiment dans une œuvre. Il faut bien voir que la matérialité de ce qui se passe là, c'est vraiment du déchet. Enfin, Alain, avec raison, préfère l'idée de rebut, parce que le rebut, ça peut se recycler. Il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est l'allusion au white cube. Et quand je dis par exemple que le white cube c'était mon idéal, c'est l'espace neutre où je pouvais faire un geste désaffecté, c'est complètement vrai. Je veux dire, mais il y a une espèce de cheminement de l'histoire qui fait que je suis devenue cette créature totalement aberrante et que même l'histoire me rejette. Et donc il y a une mise en perspective critique et pas du tout une manipulation de forme comme pourrait le faire une attitude postmoderne. Laurence Loop was a
dans les références et dans les genres. Gilda m'a constitué avec tout ce que ça représente, mais évidemment d'autres figures féminines, parce qu'on a beaucoup tourné autour des figures féminines. Le début du spectacle, c'est autour de toutes les bad girls du rock, que ce soit Diamanda Galas, même Nina Hagen, et surtout Patti Smith qu'on utilise. Et pour moi, c'était important aussi ces postures-là féminines de refus du cadre auquel on la signe. J'ai une amie, Sabine Procoris, qui parle par exemple des perruques. Elle parle des perruques en termes de Chador Barbie. C'est pour dire, effectivement, la réception, elle n'est pas égale. Le public peut comprendre certaines private jokes inhérentes à l'histoire de l'art contemporain, mais il peut aussi rire sans ça. Il aura un autre rire, de la même manière Heidi. Tout le monde connaît Heidi, sauf que hier soir, par exemple, il y avait des germanophones et ils ont cliqué dès la première phrase parce que Heidi, on ne sait pas si elle aura un rapport sexuel avec son grand-père, si c'est elle qui l'induit ou si c'est l'inverse. Donc c'est et tout est comme ça. Même la séquence où il y a une proposition d'un modèle de danse entre guillemets, il y a des références à des grandes figures comme Isadora Duncan par exemple. Que le public connaisse ou pas Isadora Duncan, on s'en fout. Et de toute façon, c'est pas le modèle qui est important. C'est la copie qui devient trois fois plus intéressante que le modèle en question. Et ça joue vraiment tout le temps sur ces déplacements-là.
Tout le spectacle, et vous venez d'ailleurs de le mentionner, est traversé par des figures féminines. Contestataires pour certaines, donc les bad girls, d'autres figures féminines proches donc, du cliché de l'idéal féminin, par exemple, on pense à Gilda. Il n'y a donc pour vous aucun rattachement à une figure masculine qui est possible ?
Il y a quand même des figures masculines, à savoir Paul McCarthy et Mike Kelly. Un jour, j'ai dit à Anne, Claudia et Laurence, si je travaille aussi enfin, sur cette idée du féminin, des figures féminines un peu contestataires, c'est parce que je me sens aussi très proche en tant qu'homosexuel des mouvements féministes et que c'est une manière de déplacer. Et quand Sabine Procoris parle de dispositif 3.1 et qu'elle parle d'une histoire de quatre femmes dont un homme, elle résume bien l'affaire.
Le costume même qui ouvre le dos du corps révèle des fesses et des cuisses d'hommes de façon extrêmement forte, et il y a une apparente uniformité du corps et même du visage, puisqu'au tout le début de la pièce on a le visage voilé par les cheveux, et en fait ce qui joue beaucoup pour révéler l'identité, c'est le postural, c'est-à-dire ce que d'habitude on ne voit pas ou qu'on n'identifie pas et qui là devient extraordinairement présent. Et on sait très bien que tous les kinésiologues vous diront que le postural habite vraiment le derrière, enfin le dos du corps, c'est-à-dire les parties qui ne sont pas reliées à la communication et aux fonctions sociales. Il y a quelque chose là qui est comme un espèce de fantôme de soi, de fantôme identitaire. Et je pense que dans le cas d'Alain, c'est quelque chose de très présent et de très fort, et bien entendu qui joue en contradiction avec le costume et les cheveux,
avec
l'apparente uniformité, et aussi avec la féminisation de l'ensemble de son vêtement, de ses cheveux, etc., etc. Et un des objets quand même de cette pièce, c'est de penser à entre les deux genders, enfin entre les deux genres, lequel est le plus opprimé. Et malgré toute la sympathie que j'ai pour certains combats de l'identité masculine, je dois dire quand même que dans la civilisation telle que nous la vivons, c'est quand même la femme qui est écartée du langage, du discours culturel, comme du discours tout court, et même des relations de pouvoir. Et donc d'où l'importance du personnage de Heidi, et l'importance également des tâches qui sont allouées à la femme, même si la femme elle-même peut, dans le cadre par exemple du personnage de Claudia, qui est un personnage extraordinaire au début, être la génitrice qui donne les ordres pour qu'on accède à la verticalité. C'est aussi un signe d'humanité important. Par ailleurs, je voudrais dire aussi que sur le problème des identités, ce spectacle travaille beaucoup sur l'enfance, donc à un moment où les identités sont moins affirmées, aussi sur le préhumain. C'est-à-dire que peut-être que justement des problèmes identitaires ou des définitions identitaires minoritaires ou autres peuvent peut-être prendre un autre ou du moins s'atténuer.
One more step.
pour situer les choses, il y a Claudia Triozzi qui est assise sur une chaise qui donne des ordres, et vous trois, vous avancez et reculez sur scène, selon trois modes, donc debout,
à quatre pattes, et dans un geste de reptation.
Et ce mouvement de reptation, il est quand même très opposé à des fonctions définies comme humaines, par exemple. Puisque je dis un texte en rampant, je m'aperçois bien de la nécessité de la verticalité pour pouvoir proférer, et d'où mon essoufflement. Et en plus, ce préhumain, il nous a été aussi inspiré par Mike Kelly et toutes les expériences de la fameuse installation de Grenoble au magasin, et du travail sur les chimpanzés, et le passage du corps sur le corps de la mer, par exemple. Comment le corps de la mer devient une espèce de territoire privilégié d'accès, mais tout en restant beaucoup dans le monde animal, enfin dans une espèce d'animalité qui n'arrive pas, même pas à émerger jusqu'à la parole. Et pour revenir sur le texte que je dis, qui est quand même aussi sur l'apprentissage du langage, et qui sacrifie un corps de femme à l'apprentissage du langage pour un jeune garçon.
La pièce tourne autour des questions d'apprentissage.
Qu'est-ce que faire de
cette verticalité ? À quoi elle nous sert finalement ? Parce qu'à la fin du spectacle, on se retrouve quand même à plat ventre en train de produire du son, et peut-être que ça sert qu'à ça finalement encore, on n'en sait rien. Et l'apprentissage du langage, et de, encore une fois, il y a une figure féminine qui est la nourrice, hein, complètement sacrifiée, à laquelle on lui coupe un sein pour accélérer l'accès au langage de l'enfant du roi, pour qu'il arrive encore plus vite sur le trône et dans sa position de rapport de pouvoir à la plèbe et au reste de l'humanité. Et c'est encore une fois une femme qui subit ça.
En même temps, il y a quand même une critique de la vision lacanienne de l'interdiction du toucher pour accéder justement au langage.
Oui, c'est effectivement le toucher qui accélère le langage.
Le manque. C'est le sein absent qui va accélérer. Donc il y a cette espèce de méthode de pédagogie du manque qui est mise en complètement en lumière, et avec une vision très critique, parce qu'avec raison, Alain, tu parles toujours de Michel Foucault, qui est très présent dans l'ensemble de ce spectacle, et de la notion de plaisir, et plutôt de suppression de plaisir par rapport à la castration du désir chez Lacan. Donc cette opposition, ça fait partie de cette trame de conversation sur laquelle ce spectacle s'est vraiment élaboré.
Alain Buffard, en trois spectacles, il y a quand même la même question du genre qui traverse donc les trois pièces, qui traverse Good Boy, bien sûr, qui traverse Extime Intime et maintenant Dispositif 3+1. Est-ce que vous voyez un parcours dans cette question ? Quelque chose est en train de se résoudre pour vous ? Ou alors vous êtes toujours dans l'expérience de cette question du genre ?
C'est la question du genre, c'est aussi la question...
Qui apprend une autre tonalité, prend la tonalité du camp, donc.
Oui, du camp. C'est en train de se résoudre, d'une part, parce qu'effectivement, il y a une chose quand même très nouvelle, c'est le texte, hein, la parole dans mon travail, qui est une chose très, très, très nouvelle. Ça se déplace parce que... si on considère effectivement... que les dispositifs de sexualité sont des dispositifs politiques, et que les attitudes face à ça peuvent modifier ou déplacer un minimum les choses dans les contraintes dans lesquelles on vit. Je crois que les questions perdurent, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, avec dispositifs, elles sont posées autrement. Sur les prochains travaux, je sais pas exactement, mais c'est je pense le corps, hein, et le rapport au plaisir et à la jouissance, c'est quand même le dernier rempart, hein, face à l'institutionnel en face et face à Et donc ça, je pense que ça sera, c'est ce qui, pour moi, fait et prend corps.
Dans ce spectacle-là, justement, dans le dernier spectacle, vous dites qu'il y a un élément nouveau qui apparaît, c'est la prise de parole, l'apparition de textes dits sur scène. Ce que l'on peut quand même remarquer, c'est que il y a plusieurs prises de parole, elles sont toutes les trois féminines, et que vous ne prenez pas la parole. Il n'y a pas de parole masculine.
Je pense qu'il y en a une.
C'est laquelle ?
Je crois que c'était pas forcément la question sur cette proposition-là. Il y a failli y avoir, mais je pense que ce sera pour un prochain travail.
Qu'est-ce qui l'a rendu impossible ou pas opérante?
pas opérant parce que la question, effectivement, il y avait un autre texte que je garde toujours sous la main, mais qui sera pas dans cette pièce-là. C'est simplement la respiration et la manière dont on a disposé toutes les séquences pour faire cette proposition-là. Et c'était à la fois avec et en trop. Et je préfère le moins pour dire le plus.
D'abord fait venir en tant que personne n'ayant pas un corps spécialisé, ce qui est déjà très important, bien que j'ai quand même pris quelques cours et fait quelques ateliers de danse dans ma vie. C'est pas évident au moment où on affronte un travail aussi complexe. Et par ailleurs, je pense que tous les deux et d'autres personnes, comme Claudia Triozzi par exemple, se réfèrent à une tradition, et Anne Laurent aussi d'ailleurs, se réfère à une tradition quand même qui est l'intervention de gens de la scène artistique ou intellectuelle, comme ça a été le cas avec de Rauschenberg, avec Cunningham dans pour Pelican, de Annette Michelson pour Continuous Project Altered Delhi, de Jill Johnson dans plein de spectacles de la Johnson Church. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des noms danseurs qui ont traversé comme ça les scènes tenant un discours ou ne le tenant pas. Enfin, ça fait partie de, pour nous en tous les cas, enfin, pour moi, ça fait partie d'un héritage qui va de soi, qui est une tradition de contemporaine.
Dans Dispositif 3.1, il y a une conférence sur l'art contemporain, une sorte de conférence sur l'art contemporain, mais on pourrait y voir aussi, de l'autre côté de l'art, une dimension sportive. C'est-à-dire que on peut très bien comprendre le début de la pièce où les danseurs, en fait, arpentent des couloirs comme étant des couloirs d'athlétisme, en quelque sorte. Et le dispositif scénique qui fait que le public est d'un côté et de l'autre de la salle pourrait aussi se voir comme une sorte de dispositif de stade. Est-ce que chez vous, il y a ce désir d'avoir pensé un rapport au corps qui pourrait être non seulement un rapport à l'intellect, mais un rapport au sport, c'est-à-dire à la performance?
Il y a un rapport à la performance, il y a un rapport, comme on le disait tout à l'heure, de par le costume et les perruques surtout qui cachent le visage, il y a un rapport direct au postural des corps. Donc on a voulu, j'ai tenté d'effacer les spécificités masculines, féminines, en tout cas sur la première séquence, qui est un acte performatif purement presque sportif, enfin en tout cas qui s'aventure jusqu'à une certaine limite du supportable pour nous dans la fatigue et pour le spectateur aussi, de par le fait qu'il soit disposé en bifrontalité, c'est-à-dire qu'il n'est pas en face de nous mais il est à côté de nous. Donc dans l'idée d'accompagner et d'être témoin de cette fatigue-là, de ce souffle-là, et en même temps il fait face à lui-même, puisqu'il fait face à un autre public, hein, et qu'en au milieu, ils sont éclairés. Il n'y a pas de partage, hein, d'espace, hein, en tout cas créé par la lumière, hein, puisque tout le monde est visible, hein, tout est visible.
Il y a aussi le fait, effectivement, que chacun son couloir, et que donc on accomplit des tâches et des trajectoires à l'intérieur de ce couloir. Ça renvoie quand même à la notion d'apprentissage, de rapport de pouvoir avec une voix qui nous, comme dans un porte-voix, dirais-je, qui nous donne des injonctions pour favoriser pour mettre en branle ces trajectoires. Et c'est très de même que dans la section rock'n'roll aussi, la section sur la séquence avec le fameux bas bloc de Patti Smith. Il y a également une descente de trajectoire très linéaire, et c'est peut-être cela qui donne cette idée de dispositif proche de ce que serait un lieu sportif, une piscine par exemple, effectivement, ou un court de tennis avec les gens des deux côtés. Mais dans le même temps, je pense qu'il y a un autre élément, c'est-à-dire que puisqu'on n'est jamais frontal, on est toujours dans le passage. On est toujours dans le passage. Et moi-même, quand je fais la conférence, par exemple, je suis face à une table qui n'est pas du tout dans la disposition habituelle d'une table de conférence, et je ne m'adresse à personne. Et ce n'est qu'au moment où je vais dans ce fameux cube de carton qui devient l'emblématique de l'espace neutre de la performance, le White Cube, qu'à partir de ce moment-là, je m'adresse au public. Mais sans ça, nous sommes toujours en circulation entre deux, effectivement. Et donc, cette confrontation qu'on aime tellement dans la danse contemporaine, elle disparaît complètement.
Studio Danse pour aujourd'hui, et ben c'est fini. Nous recevions le chorégraphe Alain Buffard et la critique performeuse absolument formidable, il faut bien le noter, Laurence Loupe. La pièce s'appelle Dispositif 3.1.
Pour la bonne bouche et surtout le bon esprit, on rappelle le livre indispensable de Laurence Loupe, Poétique de la danse contemporaine, publié chez nos amis belges aux éditions Contredanse. Au mixage, il y avait Paul-Yvon Viré de France Bleu Bresse Isel, et à la réalisation, Gérard Brodin.
Cette émission a été diffusée la première fois le 31 mars 2001 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.